Per mi és un honor poder presentar en Marie Thiès, que és una persona que per tots nosaltres és un referent en els estudis de història cultural, de construcció de símbols i mites de, en primer lloc, França, però després els símbols i mites del regionalisme que acaba construint una Europa, que és l'Europa del segle XIX. Anne-Marie Thiès és, com sabeu, directora d'investigació del Centre National de la Recherche Scientifique. Va estudiar a l'École Normale Supérieure de París i va obtenir un doctorat a la Universitat París 3 Sorbonne Nouvelle i un doctorat d'estat a la Universitat de Lió 2. S'ha especialitzat en història cultural i ha estudiat els hàbits populars de lectura a la França de l'inici del segle XX, amb un llibre que ens va sorprendre tothom, que és Le roman du quotidien, lecteur et lecture populaire à la belle époque, publicat a París l'any 1984 i reeditat el 2001, i sobretot ha estudiat el regionalisme francès al segle XX, sovint negligit per una historiografia, la francesa, que es podria dir que és massa centralista. És autora del llibre Écrire la France, le mouvement régionaliste de langue française de la belle époque à la libération, publicat el 1991. S'ha interessat pel paper que va jugar el regionalisme en l'ensenyament republicà a França i d'aquí en surt un altre llibre, Ils apprenaient la France, de l'any 1998. I arran de la publicació del seu llibre, La création des identités nationales, Europe, 18e-20e siècle, de l'any 1999, els seus treballs de recerca més recents se centren en la qüestió de les identitats nacionals i de la identitat europea. Darrerament ha publicat en català a València, l'editorial Affairs, el llibre França, quina identitat nacional? Això va ser el 2017 i ara mateix, fa molt poc, acaba de publicar La fabrique de l'écrivain national entre littérature et politique, l'editorial Gallimard, i que, sense cap mena de dubte, serà un altre dels referents que a nosaltres també ens permetran d'analitzar el fenomen de la construcció de l'escriptor nacional en un àmbit com és el català. Per tant, és un llibre recent, 2019, ara mateix, i voldria felicitar en Marie Thiès per aquesta nova publicació. Merci beaucoup pour vos livres. I ara ens parlarà de un tema que és el tema que vertebra de fet tot el simposi i que ha titulat Écrire le paysage identitaire. Merci beaucoup pour être ici, Anne-Marie, et quand vous voudrez.
Merci Margarita pour cette invitation qui me permet de voir un lieu magnifique. Merci à vous tous d'accepter que je parle en français. À ma grande honte, je ne parle ni l'espagnol ni le catalan, même si je peux comprendre un petit peu. Alors, comme vous le savez, les relations entre Gironde et la France sont coupées, pas pour des raisons politiques, mais pour la pluie, à cause de la pluie. Ce qui ne nous a pas empêchés de venir par la voie des airs. Et donc, je vais présenter quelques éléments sur l'écriture du paysage identitaire depuis le XVIIIe siècle. Je ne suis pas du tout spécialiste de la Catalogne. Je ne prétends pas connaître le sujet catalan. Et donc, je prendrai un certain nombre d'exemples européens qui, peut-être, font écho au cas catalan. Alors, la création des paysages identitaires nationaux, ça a été une très grande affaire culturelle et politique dans l'Europe du XIXe siècle. Et notre patrimoine d'image nationale est formé par tout ce travail. Alors, quelques exemples de ces formations. Le Mont Cervin, le Matterhorn, tel qu'il a été fait en aquarelle par John Ruskin au milieu du XIXe siècle et qui est devenu le symbole identitaire suisse, et le chocolat Toblerone, entre autres, parce que l'identité nationale est en rapport avec l'économie et la valorisation des produits nationaux. On en verra d'autres exemples. Paysage très célèbre, celui de la Puszta hongroise, mis en valeur à partir du milieu du XIXe siècle, donc avec ce paysage très caractéristique de l'arc-en-ciel, comme si on était sur l'océan. La Puszta devient la mer intérieure de la Hongrie, avec ce puits très caractéristique qui renvoie aux origines supposées asiatiques, sibériennes du peuple hongrois. Autre paysage très caractéristique, donc, le lac de Bled, en Slovénie. Alors, je précise, ces paysages, nous les connaissons parce qu'ils ont été beaucoup reproduits dans l'iconographie nationale, ne serait-ce que sur les timbres, les billets de banque, les illustrations de documents officiels, et puis, maintenant, les affiches touristiques. Nous avons toujours ces images en tête. Autre exemple très caractéristique, le fjord norvégien, dont vous voyez à quel point il a des parois extrêmement abruptes tombant dans la mer, avec les petites maisons norvégiennes en bois peint rouge caractéristique. Paysage national russe, très caractéristique aussi, où, je m'arrêterai là pour ce passage en revue picturale, cette représentation donc, du paysage national finnois par un peintre qui s'appelle Akseli Galen-Kallela, qui s'est formé à Munich, à Paris, et qui s'appelait initialement Axel Galen, et qui s'est appelé Galen-Kallela parce qu'il a illustré l'épopée nationale finnoise, le Kalevala, et donc il a changé son nom pour le rapprocher de celui de l'épopée nationale finnoise. Donc on voit image du paysage, image de la mythologie nationale, ici convergent dans le nom même du peintre. Alors, cette construction des paysages a été mise en scène spectaculairement par la peinture, mais elle a été aussi créée, aussi, et peut-être même principalement, par la littérature. Et je vais y revenir. Alors, petite parenthèse un petit peu plus théorique. Comme nous le savons, la nation, dans le sens moderne, ça a été, au XVIIIe siècle, un concept de rupture avec l'Ancien Régime. Et le principe était que ce n'est pas un roi, ce n'est pas un prince qui définit la nation. La nation n'a pas pour territoire le territoire d'un État monarchique ou princier. À la différence d'un royaume, la nation n'est pas dépendante de l'issue des guerres et des alliances dynastiques, qui changent tout le temps. Elle est conçue comme une communauté stable, inscrite à la fois dans la longue durée et dans l'espace. À partir des années 1820, la rédaction des histoires nationales et leur vulgarisation littéraire a permis l'inscription de la nation dans la très longue durée, de nos ancêtres fondateurs jusqu'à nos jours. Mais, comme je l'ai dit, la nation est aussi associée à un territoire précis. Et la mise en évidence du rapport entre la nation et son territoire spécifique a été une grande entreprise qui a mobilisé beaucoup de savants, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'artistes, puis des membres ordinaires de la nation pendant des décennies. Donc la nation, à partir du XIXe siècle, est imaginée, et je reviens à l'expression célèbre de Benedict Anderson, la nation est une communauté imaginée, ça veut dire qu'elle est mise en image, elle est mise en texte, elle est mise en son. Et elle existe à part cette mise en image, mise en texte, mise en son. Et la nation est imaginée comme une grande famille qui possède un patrimoine collectif constitué depuis les ancêtres fondateurs, la nation présente a le devoir de transmettre cet héritage commun dans le meilleur état possible. Donc, les membres de la nation doivent connaître ce patrimoine, ils doivent l'aimer, ils doivent l'admirer, ils doivent le protéger. La nation est aussi présentée, nous le savons, comme une communauté transsociale qui unit toutes les couches de la société, depuis les paysans jusqu'aux plus riches aristocrates. Et il apparaît donc la nécessité de développer à tous les niveaux sociaux la connaissance et l'amour de cet héritage commun. Le passage à l'ère nationale relève donc d'une double révolution, à la fois politique et culturelle. Je rappelle que c'est aussi le moment où est promue une nouvelle esthétique, en rupture avec l'esthétique classique. Donc c'est désormais l'innovation qui va être mise en avant et non plus l'obéissance à des conventions, des normes classiques. Et puis, et c'est un fait capital, se développe l'idée qu'une démocratisation de l'esthétique, une pédagogie générale du goût doivent être développées pour que ce patrimoine collectif donc, soit admiré, protégé, transmis. La solidité de la nation, sa cohésion implique qu'il y ait, à un certain niveau, un consensus esthétique des différentes couches sociales, ce qui n'était absolument pas une évidence auparavant. Auparavant, la culture était l'apanage d'une élite se distinguant du reste de la population. Donc, à partir du XIXe siècle, les intellectuels, les écrivains, les artistes sont en charge d'une mission pédagogique au service de la nation. Et certains l'accomplissent très volontairement. Un des objectifs est de procéder à une conversion du regard. Chacun dans la nation doit apprendre à voir comme un paysage un espace naturel qui était antérieurement apprécié principalement du point de vue de ses ressources économiques. Donc, un espace naturel envisagé du point de vue économique doit devenir un espace esthétique. Et ça, c'est une énorme conversion du regard. Je prends pour exemple un poème de Victor Hugo en 1835. Donc, je lis ce poème de Hugo. Je ne sais pas s'il est lisible ici. Bon. Vois, ce spectacle est beau, ce paysage immense qui toujours devant nous finit et recommence. Ces blés, ces eaux, ces prés, ce bois charmant aux yeux, ce chaume où l'on entend rire un groupe joyeux, l'océan qui s'ajoute à la plaine où nous sommes, ce golfe fait par Dieu, puis refait par les hommes, montrant la double main empreinte en ses contours, et des amas de rocs sous des monceaux de tours, ces landes, ces forêts, ces crêtes déchirées. Bon, est-ce que ça pourrait s'appliquer à la Catalogne ? Oui, je crois. Mais à beaucoup d'espaces européens aussi. Alors, comme le montre ce poème, la beauté à apprécier donc, se trouve dans des espaces agréables, des espaces cultivés, mais aussi dans des espaces naturels qui ont été longtemps considérés comme pauvres ou même inquiétants. L'océan, je rappelle que l'historien des mentalités Alain Corbin l'appelait le territoire du vide, un territoire effrayant, et puis aussi les rochers, les landes, les crêtes de montagne qui sont ici désignées, c'est-à-dire ces territoires inquiétants, affolants et stériles pour les hommes. Donc ce paysage sans valeur économique, ce paysage non cultivé, sauvage, est non seulement apprécié, mais il est associé à de nouvelles valeurs sociales et politiques qui sont principalement la liberté et l'authenticité. Et des nouvelles valeurs qui vont devenir extrêmement importantes à l'ère nationale. Alors, dès la première moitié du XVIIIe siècle, en fait, sont apparues les toutes premières expressions de cette nouvelle esthétique qui traite des espaces incultivables de haute montagne en paysages de grande beauté. Un des premiers exemples qui est connu, c'est celui du poème Les Alpes, Die Alpen, qui a été publié par Albrecht von Haller, un médecin, un grand savant des Lumières, originaire de Berne en Suisse, qui a aussi proposé des récits de voyage dans les Alpes où, très explicitement, il associe la beauté des cimes et des torrents, beauté déclarée sublime, avec les notions de liberté, d'authenticité, de raison et de sagesse. L'idéal des Lumières se retrouve dans les sommets des Alpes. Alors, je ne sais pas si on peut le voir ici, mais une édition un peu plus tardive donc, de ces poèmes représente dans les vignettes de frontispice donc, des paysages alpins, des paysages de torrents. Peu après, au nord de l'Europe, en Scandinavie, en Écosse, des écrivains mettent en valeur une nature rude et primitive associée à cette notion de liberté. C'est le cas notamment des épopées celtiques associées au barde supposé Ossian, qui sont publiées en 1761-1762, donc en Écosse. Alors, une représentation d'un tableau un peu plus tardif qui a été fait, où l'on voit apparaître les rochers, le torrent et puis les tours en ruine qui sont devenus des éléments caractéristiques donc, de ce nouveau paysage mis en valeur qui n'a rien à voir avec les paysages des tableaux du XVIIe siècle. Enfin, ce n'est pas ce qu'on voit derrière la Joconde comme paysage magnifique. Et peu après, le roman du jeune Goethe, Les souffrances du jeune Werther, roman très prescriptif pour la jeune génération européenne qui porte les nouvelles valeurs idéologiques, morales, esthétiques, ce roman accorde une très grande place à ces publications, à cette épopée d'Ossian, puisque le héros, le jeune Werther, en cadeau d'amour, en hommage d'amour, en offrande, traduit pour Charlotte, sa bien-aimée, des passages d'Ossian. Et tous les deux les lisent et pleurent et comprennent ce qui leur arrive à travers les héros antiques. Et donc ce paysage écossais antique devient pour deux jeunes Allemands de 1780 le paysage même de leur âme, qui correspond au paysage intérieur de leur âme, de leur intimité. Donc je lis un extrait à propos d'Ossian. « Quel monde que celui où ces chants sublimes me ravissent, errer sur les bruyères tourmentées par l'ouragan qui transporte sur des nuages flottants les esprits des aïeux à la pâle clarté de la lune, entendre dans la montagne les gémissements des génies des cavernes à moitié étouffés dans le rugissement du torrent de la forêt et les soupirs de la jeune fille agonisante près des quatre pierres couvertes de mousse qui couvrent le héros noblement mort qui fut son bien-aimé. » L'amour moderne dans ce paysage donc tourmenté. Alors, l'énorme succès des épopées ossianesques suscite un regain d'intérêt très fort pour la culture celtique et notamment la figure du barde. Le festival celtique de Cornouailles, d'origine médiévale, connaît un grand revival au début du XIXe siècle. Alors, en gallois, je ne connais pas le gallois, mais je vais essayer de le dire. Ça s'appelle l'Estate Fod de Cornouailles et c'est un festival poétique qui date donc du Moyen-Âge, du XIIe siècle, qui était entré en grand déclin, comme tous ces anciens festivals, au moment d'ailleurs où se développe la culture de l'imprimé, et qui est relancé au début du XIXe siècle dans le cadre donc de ce grand renouveau esthétique et politique qui correspond à l'entrée dans l'âge national. Et en 1819, dans le cadre de ce festival celtique, est créé un Gorset of Bards, c'est-à-dire une assemblée des bardes, qui sera d'ailleurs imitée en France, en Bretagne ultérieurement, qui aura une grande importance dans le mouvement celtique breton en France, et donc est relancée cette image donc, du poète à l'ancienne, à l'antique, sur qui chante le paysage et l'âme nationale. Alors, il va y avoir dans l'Europe du début du XIXe siècle des quantités de représentations de bardes. Il y a celle-là qui est très célèbre, donc d'un tableau de 1817, donc ce paysage avec les apics vertigineux, le torrent en bas, la tour, le château médiéval derrière, et puis le barde tout en haut sur la montagne. Il y a du vent, on voit avec ses vêtements qui s'envolent, il a sa harpe celtique, et puis tout en bas les armées royales qui veulent détruire l'antique culture libre celtique, et il lance des imprécations contre ses troupes. Alors, c'est une déversion. En voilà une autre, toujours. Le barde celtique sur un rocher avec sa harpe dans un paysage tourmenté. Et là encore, ça évoque ce poème donc, sur le barde celtique. Et une version scandinave, suédoise, c'est le frontispice d'une collection de chants populaires publié par Geiger et Afzelius à Stockholm en 1814, qui est le début de l'affirmation d'une culture et d'une littérature nationale suédoise moderne, associée à un mouvement nationaliste suédois fort. Et là encore, on retrouve bon, ce barde avec sa harpe, là, devant une mer de tempête. Donc, cette figure du barde prolifère un peu partout. Bon, les dernières versions, parce que c'est d'actualité, c'est Astérix, dans la version donc, humoristique et anachronique que nous connaissons. Mais il y a cette mise en scène donc, du poète national dans un certain type de paysage national. Bon, ce qui se multiplie aussi au début du XIXe siècle, dans la suite de ces textes de Haller dont je vous avais parlé, ce sont les séries de récits de voyage. Alors, des historiens de l'art ont calculé qu'entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, il y a eu 360 récits de voyage publiés pour la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne seulement. Alors, on imagine pour l'ensemble de l'Europe, notamment l'Italie, la Suisse, qui sont des grands lieux de voyage. Et pour la France, le premier grand relevé systématique des sites identitaires et des monuments historiques du territoire national s'intitule « Les voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France ». Et il s'agit de volumes qui ont été publiés sous la direction d'Isidore Taylor, Charles Naudier et Alphonse Cailleux. Énorme entreprise éditoriale. Les volumes paraissent entre 1820 et 1854. Et les textes sont très richement illustrés. On voit ici une page normale avec donc tout autour. Le texte est encadré de représentations de paysages et de monuments. Et il y a en plus énormément d'illustrations spécifiques. Donc, je prends ici deux exemples, l'abbaye de Saint-Guillain dans le Languedoc, et où l'on voit donc à la fois la mise en valeur du monument historique, qu'il s'agit de préserver, parce qu'à l'époque, il s'agit bien d'empêcher d'éviter la ruine ou la destruction effective par les hommes de monuments anciens, donc les relevés systématiques qui sont faits par des architectes ou des artistes de ces monuments, des représentations qui sont destinées à montrer aux Français ordinaires la beauté de ces paysages, de ces monuments, la manière de les regarder et le paysage dans lequel ils s'inscrivent et qui leur donne leur sens. Là encore, on retrouve le torrent et la mise en scène montagneuse. Autre exemple que je prends, c'est la cascade du Gave dans le cadre du cirque de Gavarni dans les Pyrénées, qui, là, il n'y a pas de monument, c'est la mise en évidence donc, d'un paysage à admirer, à aimer, patrimonial. Alors, ces volumes que je vous présente, il y en a eu 24 au total, très richement illustrés, ils sont de format in-folio, donc ils sont très peu maniables, très chers, mais leur contenu, et notamment ces illustrations, vont être diffusées beaucoup plus largement, notamment par le biais de la gravure, qui est en train de devenir une technique de moins en moins coûteuse et donc de plus en plus démocratique. Et donc, ces illustrations vont circuler, et puis elles vont inspirer la fabrication de toutes sortes d'objets domestiques, des papiers peints par exemple, ou de la vaisselle. Et au cours du XIXe siècle, la représentation des paysages pittoresques, identitaires, va entrer dans les maisons et va devenir un élément du décor domestique. C'est-à-dire, ce sont les choses que l'on manipule, dans lesquelles on vit de manière ordinaire à travers ces représentations. Alors, visuellement, mais aussi intellectuellement, par la lecture qui est en plein développement. Nous savons tous que les romans du XIXe siècle contiennent de nombreuses et souvent très longues descriptions paysagères, ce qui a été pour les générations suivantes parfois extrêmement éprouvant. Donc on sautait les descriptions. Mais ne sous-estimons pas le rôle pédagogique considérable, très démocratique, de ces descriptions qui, à une époque avant Internet, avant la télévision, avant même la photographie, ou la diffusion de la photographie, ont apporté à tout individu des représentations du paysage national. Et donc, c'était destiné à apprendre le lecteur et à le plonger dans ces décors, dans ces paysages qu'on lui présentait comme extrêmement intéressants. Je vais prendre le cas du premier roman historique français. Ce premier roman historique français, il est publié à la Walter, d'imitation de Walter Scott, donc c'est tout à fait nouveau, c'est l'innovation esthétique du XIXe siècle. Ce roman historique français, il est publié en 1826 par Alfred de Vigny, et il s'appelle 5 mars, une conjuration sous Louis XIII. Et ce roman historique commence par une très longue description de paysage, qui est le paysage du centre de la France, ce que nous appelons maintenant le paysage des châteaux de la Loire, donc grande destination touristique mondiale de nos jours, mais à l'époque, ça n'est pas une destination touristique, il n'y a pas de tourisme des châteaux de la Loire, mais ça l'a créé. Et l'auteur, le narrateur, donc, propose à son lecteur une promenade en suivant le fleuve, pour découvrir ce qu'il faut regarder. Alors, les châteaux, les paysages, mais il découvre aussi dans cet espace un certain état d'esprit, un ethnotype régional et une langue. Alors, je vais vous lire ce passage. « Connaissez-vous cette contrée que l'on a surnommée le jardin de la France ? Ce pays où l'on respire un air si pur, dans les plaines verdoyantes, arrosé par un grand fleuve. Si vous avez traversé dans les mois d'été la belle Touraine, vous aurez longtemps suivi la Loire paisible avec enchantement. » Et là, après, il y a un long développement sur « Suivez avec moi, nous allons suivre. » Les bons tourangeaux sont simples comme leur vie, doux comme l'air qu'ils respirent. Donc le climat et le sol font la population. Et ils sont forts comme le sol puissant qu'ils fertilisent. Relation directe entre l'homme et le territoire. Leur langage est le plus pur français, sans lenteur, sans vitesse, sans accent. Il est comme la Loire, leur accent. Donc on ne peut pas faire une imprégnation plus forte. Alors on peut voir à travers ce paysage qu'on n'est pas ici dans le sublime alpin, hein, dans le torrent déchaîné et le paysage. Commence à arriver le paysage agréable, le paysage cultivé, le paysage calme, qui va entrer aussi dans la formation des paysages identitaires nationaux, souvent associés à un fleuve et à la notion donc de monde agréable. Locus amoenus, on le retrouve à ce moment-là. Nous savons aussi que la poésie lyrique du XIXe siècle, vous le savez encore mieux que moi, est très riche en célébrations du paysage national. D'ailleurs, de nombreux hymnes nationaux actuels en Europe ont pour parole des poèmes lyriques du XIXe siècle qui célèbrent à la fois l'histoire et le paysage national. Quelques exemples. Ça va être lisible. L'hymne du Danemark actuel, l'hymne officiel du Danemark actuel qui s'intitule « Il est un pays charmant » a pour parole un poème de Gottlieb Oehlenschläger de 1819. Donc, première strophe, il y a un pays charmant qui s'étend avec de larges hêtres, l'arbre national. Il y a souvent un végétal national hein, dans les paysages. Près de la plage de l'Est salé, l'océan, il s'appelle Vieux Danemark et c'est la salle de Freya, donc mythologie scandinave, dans le paysage. L'hymne national tchèque, Où est ma patrie, est issu d'une chanson que chantait un personnage dans une comédie jouée pour la première fois en 1831. Donc, extrait, Où est ma patrie ? L'eau ruisselle dans les prés, les pins murmurent sur les rochers, le verger luit de la fleur du printemps, un paradis terrestre en vue. Et c'est ça un si beau pays, cette terre tchèque, ma patrie. Donc c'est l'hymne actuel. Hein. Donc autre exemple, l'hymne croate actuel, qui avait été adopté par le mouvement Ustachi pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été repris par les communistes croates à la libération et repris par la Croatie indépendante à la fin de la Yougoslavie. Donc il y a une continuité donc, politique à travers les régimes de cet hymne qui donc, est issu d'un poème de 1835. « Coule, save, drave, coule », donc les fleuves. « Toi non plus, Danube, ne perds pas ta vigueur. Mer azur va annoncer au monde qu'un Croate aime sa nation. Le paysage porte le message patriotique. Vous êtes dans ce paysage. Comme les fleuves, vous devez être patriote. » C'est très fort. Donc, il n'y a pas, au XIXe siècle, d'éveil national, pas de renaissance nationale, comme on dit au XIXe siècle, sans présentation littéraire du paysage national. Et je prends pour exemple l'œuvre fondatrice du mouvement national provençal, Mireio, de Frédéric Mistral. Et donc, il y a dedans un grand hymne au paysage, donc dans Mireio. Vous pouvez peut-être lire, vous, la version provençale, je n'oserais pas le faire, je vais le lire en français. Et le ventour, alors c'est le mont Ventoux, hein, que laboure la foudre, donc c'est Jupiter même hein, qui vient sur le Ventoux. Le Ventoux qui, vénérable, élève sur les montagnes blotties au-dessous de lui sa blanche tête jusqu'aux astres, tel qu'un grand et vieux chef de pasteur qui, entre les hêtres et les pins sauvages, à côté de son bâton, contemple son troupeau. Et le Rhône, où tant de cités pour boire viennent à la file, en riant et chantant, plonger leurs lèvres tout le long, le Rhône si fier dans ses bords, et qui, dès qu'il arrive à Avignon, consent pourtant à s'infléchir pour venir saluer Notre-Dame des Dômes. Et la Durance, cette chèvre, ardente à la course, farouche, vorace, qui ronge en passant en cadde et argousier, ça c'est les végétaux de la garrigue provençale, cette fille sémillante hein, qui vient du puits avec sa cruche et qui répand son onde en jouant avec les gars qu'elle trouve par la route. Donc, toute une mise en scène du paysage provençal avec donc le paysage montagnard mais associé au fleuve et des paysages cultivés. Est-ce que ça ressemble ? Bon, c'est vous qui le dites. Et je ne me permettrai pas ici de commenter donc, cette publication donc, de 1901 où est mise en scène donc, une montagne en rapport avec donc, une histoire épique nationale. Cette mise en valeur littéraire et picturale du paysage ne concerne d'ailleurs pas que l'Europe au XIXe siècle. Aux États-Unis, il y a un très fort investissement dans le paysage sauvage. Alors, initialement, par exemple, les chutes du Niagara, et puis progressivement, à mesure qu'il y a la conquête de l'Ouest, les paysages de l'Ouest américain qui vont être illustrés en peinture et en littérature. Mais rappelez-vous, au Japon, même en 1831-1833, au moment où les Européens se passionnent pour les montagnes, le maître de l'estampe japonaise, Okuzai, produit ses 36 vues du mont Fuji, qui vont influencer énormément donc, les Européens à la fin du XIXe siècle en peinture, mais il va produire aussi 100 vues du mont Fuji qui sont diffusées sous forme de livres et qui ont une importance très importante au Japon. Alors, comment se constituent ces territoires nationaux ? Donc, j'ai donné une série d'éléments qui apparaissent. La généralisation des représentations du territoire national implique qu'il y ait quand même, même si c'est transnational ce processus, implique qu'il y ait quand même une certaine forme de différenciation. Alors, comment se fait la différenciation ? L'espace naturel tel qu'on le trouve a souvent un ensemble de ressources. Des montagnes, pas toujours, mais souvent. Des plaines, des rivages maritimes, souvent, pas toujours. Mais aussi des rivières. Alors, que choisir ? Et le paysage qui est choisi comme le plus emblématique va souvent accentuer la différence avec le paysage que mettent en valeur des nations proches et donc rivales. Et je vais prendre ici un exemple qui est celui d'un poème écrit par le grand poète national hongrois, patriote, et qui va mourir d'ailleurs au combat contre l'oppresseur habsbourgeois, donc Sándor Petőfi. Et en 1847, donc, il publie ce poème qui s'appelle « Tacigogne » dans un ensemble de poésie magyar, où il va célébrer la pusta et apprendre aux Hongrois, aux lecteurs hongrois, les beautés cachées de la pusta, la grande plaine. Parce que cet espace, qui est devenu le paysage emblématique de la Hongrie, était jusqu'alors doublement dédaigné du point de vue économique, parce qu'il y avait un rendement agricole extrêmement faible, et le nom hongrois, ça veut dire nu, vide, il n'y a rien. Et puis, ça pouvait paraître complètement dépourvu de valeur esthétique. Mais au moment où l'Autriche, qui est la puissance dominante, peut mettre en valeur des paysages relevant du sublime alpin, donc des montagnes extrêmement hautes, la Hongrie, qui a elle aussi des montagnes, des collines et des montagnes, pensez à la partie de la Transylvanie, il y a des montagnes, ce ne sont pas des Alpes, mais ce sont quand même des montagnes impressionnantes. La Hongrie, par opposition à l'Autriche, va mettre en évidence l'étendue la plus plate qui soit, le plat pays, et va l'investir d'une nouvelle valeur, donc celle d'une espèce d'océan intérieur à l'Europe, mais un espace donc qui n'est perceptible esthétiquement que par les Hongrois. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, de manière très concentrée, le poète Petőfi ici va expliquer le processus qu'il adopte, qui est de retourner et de politiser les critères d'évaluation esthétique, puisqu'il va associer sublime alpin et oppression, oppression de l'ennemi autrichien. Alors, on va lire le poème. « J'aime la pusta. Je l'aime, c'est ma terre. Et il faut l'aimer. Apprenez-vous aussi à l'aimer. J'aime la pusta. Là seulement, on est libre. » Là, mon regard s'étend partout à plaisir et ne trouve d'obstacle nulle part. Là, les sombres rochers ne m'entourent pas en menaçant, les sombres rochers d'où le torrent se précipite avec un fracas retentissant comme le bruit des chaînes. Donc, le sublime alpin, c'est l'oppression autrichienne qui va enchaîner les patriotes hongrois. Donc, la pusta, c'est le contraire. Et que personne ne dise « la pusta n'est pas belle ». Vous ne le savez pas, mais c'est la beauté sous le voile. Semblable à une jeune fille pudique, elle dérobe sa beauté, et c'est seulement pour ceux qui la connaissent, pour ceux qu'elle aime, qu'elle entr'ouvre son voile. Alors, tout d'un coup, le regard plein de feu apparaît devant vous un visage de fée. Si vous êtes un vrai magyar, vous aimerez ce paysage, et ce paysage va se révéler à vous. C'est quasiment religieux. C'est une révélation qui se produit ici. Et donc, ce qui est très clairement exprimé par Petőfi, c'est cette idée d'affinité particulière entre un territoire national et les membres d'une communauté nationale. L'écrivain, c'est celui qui perçoit le mieux l'âme de la nation, du territoire, et peut la faire percevoir aux membres de la communauté nationale. Donc, c'est une espèce de guide dans la transmission, mais de guide quasiment religieux dans la révélation, dans ce qui se produit ici en termes de découverte d'un mystère, le mystère de la beauté nationale. Et cette idée va être de plus en plus fréquemment exprimée dans la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, elle s'applique à la perception du territoire national, mais aussi en interne du territoire régional. Et je vais citer à cette occasion des remarques du poète fait libre et militant régionaliste français Jean-Charles Brun. Donc, je cite Jean-Charles Brun dans son livre de 1907, « Les littératures provinciales ». Ainsi, par la double vertu du sol et de l'histoire commune à ses ancêtres, l'écrivain provincial peut saisir tous les caractères qui constituent la figure de sa province. Par une étude volontaire et passionnée, il peut dégager en lui-même les linéaments, un peu effacés peut-être, de sa personnalité. Une qualité propre d'imagination et un choix d'image emprunté au fond populaire, aux phénomènes météorologiques, à la faune et à la flore du pays, une qualité propre de sensibilité, une conception particulière de tous les grands problèmes, une véritable philosophie, car un languedocien n'entend pas de même qu'un breton la nature, l'amour, l'infini et la mort. Donc il y a des sensibilités régionales différentes sur les grandes questions. Enfin, une connaissance exacte des mœurs, si précieuse pour colorer le récit et le situer dans l'espace, en voilà plus qu'il ne faut pour assurer cette inappréciable variété que nous recherchons. Et au tournant du XIXe et du XXe siècle, alors que l'histoire littéraire est en plein essor dans les nations européennes, apparaît la notion de géographie littéraire, donc construite sur le modèle de histoire littéraire. Alors, un premier exemple que je montre ici, c'est un ouvrage qui paraît en 1904 à Londres, Literary Geography, donc qui propose une présentation de l'Angleterre, enfin plus exactement du Royaume-Uni, à travers les écrivains. Et comme vous le voyez ici, vous avez Dickensland, Scotland, the Bounty Country, Thackerayland, c'est-à-dire le pays de l'écrivain, le paysage constitué par l'écrivain. Qui est présenté ici, donc dans une perspective de géographie littéraire, avec l'idée qu'il y a des paysages littéraires qui ont une grande cohérence. À la même période, il y a en Allemagne donc, cette notion de géographische Literatur qui apparaît donc notamment dans un volume de 1907 de Robert Nagel, Deutscher Literaturatlas, qui est aujourd'hui fortement contesté dans la mesure où un certain nombre des thèses développées vont être reprises par les nazis. Donc, dans la mesure où toute la littérature régionaliste allemande a été en grande partie récupérée par les nazis, et donc ça porte un discrédit très fort. À la même époque, donc dans l'ouvrage de Charles Brun, Les littératures provinciales, dont j'ai donné un extrait, paraît à l'intérieur donc du volume une esquisse de géographie littéraire de la France, faite par de beaux repères Froment, à des membres de la Fédération régionaliste, et puis est publiée en 1922 par Septime Gorsex, Le miroir de la France, géographie littéraire des grandes régions françaises. Et il y avait eu, alors ça c'était humoristique, publication par Roland Dorgelès en 1911, une espèce de cartographie littéraire de la France, où il imaginait que les écrivains régionalistes avaient fait un traité, comme il y avait autrefois des traités à la fin des guerres, où on s'était partagé la France, donc entre écrivains, pour la représenter. Bon, c'était ici humoristique. Je fais une parenthèse pour signaler qu'il y a actuellement, dans la critique et l'histoire littéraire, un regain d'intérêt pour la notion de géographie littéraire. Donc, je cite deux auteurs, Michel Collot, donc un spécialiste français de critique littéraire qui a publié Pour une géographie littéraire et puis Paysages et poésie du romantisme à nos jours, et puis très connu aussi donc de Franco Moretti, L'Atlas du roman européen, donc qui est bien connu. Alors, la représentation littéraire du paysage a un rôle déterminant pour construire la valeur esthétique et patriotique de ces paysages. Mais ces paysages de papier suscitent en retour, un intérêt pour leur découverte hors des livres, par retour dans la nature. La fin du XIXe siècle est caractérisée par la multiplication des associations qui proposent de parcourir le territoire dans une perspective ludique et sportive. Je rappelle que le Club alpin britannique est créé en 1857, le Club alpin suisse 1863, le Club alpin italien 1863 également, Club alpin français 1874. Et à partir de ce moment-là, il y a dans l'Europe de l'Ouest des centaines d'associations excursionnistes, de plus en plus démocratiques dans leur composition, qui ont des finalités ludiques, hygiéniques, culturelles et patriotiques. On se groupe pour aller le dimanche visiter le territoire. Alors ici, j'ai pris une photographie qui représente des excursionnistes marseillais qui vont visiter le paysage emblématique des environs de Marseille, les Calanques de Cassis. Et on voit donc des dames avec le chapeau, avec la jupe longue et les chaussures, qui, avec des cordes, grimpent. Enfin, c'est très patriotique, là, parce que ça ne devait pas être facile. Bon, dans l'espace allemand, il y avait ces mouvements de jeunes très, très importants, notamment celui du Wandervogel, les oiseaux migrateurs qui parcouraient le paysage aussi de manière systématique pour fuir la décadence des villes, développer le corps et parcourir patriotiquement le paysage. Alors, vous connaissez la création évidemment du centre excursionniste catalan et vous voyez à cette occasion que ces associations patriotiques déclenchent une nouvelle production textuelle sur le paysage, puisque ces associations ont des bulletins, et dans les bulletins, de manière de plus en plus démocratique, les participants écrivent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils veulent découvrir. Donc le texte conduit dans la nature, et la découverte de la nature reproduit du texte, etc. C'est donc un engagement de plus en plus fort. Et l'écriture donc sur le paysage, l'écriture excursionniste, prend aussi une forme donc très très importante, donc proposant des itinéraires commentés. Donc une des conséquences, c'est la mobilisation pour la protection des paysages qui ont été repérés ayant une valeur esthétique et patriotique et les protéger contre des dégradations, lesquelles, celles qu'apporte la modernité industrielle, mais aussi celles qu'apporte le tourisme. Parce que dès les années 1900, il y a conscience qu'un mauvais tourisme peut dégrader le paysage. Donc il faut constituer et valoriser des paysages qui doivent rester dans un certain état. Et on ne doit pas y construire, par exemple, trop d'hôtels ou des hôtels dans un style affreux. Et dès 1901, est créée à Paris la Société de protection des paysages de France, une société de protection des paysages, pas seulement des monuments. À Berlin, en 1904, il y a la fondation du Bund Heimatschutz, qui a la même fonction, créée en Suisse en 1905. À Paris, en 1909, il y a le premier congrès international pour la protection des paysages et un deuxième congrès en 1912 avec déjà énormément d'associations européennes. Donc, il y a un groupement international pour la protection des paysages identitaires. Nous arrivons donc au XXe siècle, où le développement du tourisme a fait croître de manière extrêmement importante le désir de retrouver dans la vraie nature le paysage représenté par les écrivains. Au XXe siècle, les écrivains sont de plus en plus utilisés comme guides de voyage, au sens propre. Et il s'agit de retrouver, en marchant ou bien en roulant en voiture, le paysage qu'on a découvert dans le livre. Aller le voir en vrai, comme on va voir en vrai un grand monument historique. Et donc, le texte littéraire n'est plus appréhendé seulement dans l'espace du livre, mais le livre est projeté dans la nature. Et il y a, depuis le début du XXe siècle, une production de plus en plus importante donc, de guides littéraires, donc Walking with Wordsworth, promenade en Normandie, ou bien le Rhin à travers la littérature. Donc il y a des ouvrages de ce type qui sont proposés. Et c'est donc en expansion actuelle avec la multiplication donc, de ces itinéraires littéraires un petit peu partout, donc dans les pays scandinaves, dans les pays anglo-saxons. Voilà, ça fait des quantités d'exemples que je montre ici. Enfin, on pourrait en faire des... Oui, il y en a des dizaines, des centaines, et donc des rayons entiers de librairies. Et ce qui se développe aussi, ce sont des nouvelles pratiques de la littérature, donc qui ne sont plus immobiles, mais de plus en plus nomades, voire collectives. Et avec l'apparition des smartphones, il y a actuellement donc une multiplication des itinéraires. Je ne connaissais pas la carte qu'on a eue ce matin. Il y a actuellement une multiplication des itinéraires littéraires qui proposent de marcher en lisant sur son téléphone l'écriture de l'espace environnement. C'est-à-dire que je vois le paysage, je vois comment il a été représenté, je vérifie, en fait. J'ai cette double lecture, en quelque sorte, du paysage. Alors, le tourisme littéraire, c'est une niche modeste par rapport à d'autres formes touristiques. Se bronzer sur la plage, c'est modeste. Mais, comme le tourisme est un des secteurs économiques majeurs du XXIe siècle, en constante expansion, le tourisme littéraire a un impact extrêmement fort et il porte des enjeux littéraires et économiques, ce qui fait que l'Association des professeurs de littérature du Canada, il y a quelques années, en 2012, avait organisé un symposium de réflexion sur le tourisme littéraire, donc de très important, où était mise en valeur le fait que, même si d'abord le Canada n'avait pas des paysages aussi célèbres que le Stratford de Shakespeare ou le Dublin de Joyce, il y avait quand même des paysages intéressants à mettre en valeur pour développer le tourisme au Canada. Et il était bien dit que le tourisme littéraire était lié à des questions donc, de canonicité et d'identité culturelle et régionale. Donc c'était bien ce qui était travaillé ici. Je pense que dans une université où il y a littérature et tourisme, ces aspects sont importants. Alors, ce qu'on voit apparaître dans le cadre du tourisme littéraire, justement, c'est l'inscription même, parfois, du texte littéraire dans le paysage. Vous voyez, vous êtes là, et bien, regardez ce qui a été écrit. Donc, il y a des appositions de plaques. Il y a des inscriptions d'écrivains dans le paysage, soit par des statues, soit par cette installation littéraire, cette performance artistique où on avait mis la signature de l'écrivain dans le paysage. Je mets ces exemples. J'avais pris ici un exemple aussi d'un écrivain du paysage, enfin Heimat Dichter, autrichien de Styrie, donc avec l'installation de sa statue tout en haut de la montagne dans les Alpes, dans un paysage qu'il avait décrit, avec donc un extrait de son texte qui était au pied de la statue. Bon, cet écrivain, je tiens à le préciser aussi, était très nationaliste et très, très antisémite. Donc il y a un peu partout ces inscriptions d'écrivains et de textes littéraires dans le paysage. Et une multiplication actuelle extrêmement importante, et partout, et c'est depuis les années 2010, c'est en explosion, de création d'itinéraires routiers, littéraires et touristiques, ou itinéraire pédestre, touristique et littéraire, où on a à la fois la carte, la cartographie, et puis l'anthologie qui va avec, et on peut faire les deux, et éventuellement avoir tout à voir sur le smartphone. Bon, ce qui est très célèbre, je le mets, c'est une région où je passe souvent mes vacances, c'est une des grandes ressources économiques de la région, d'une certaine manière maintenant, c'est le voyage avec des ânes, dans une partie de l'Auvergne en France, comme l'avait fait Stevenson à la fin du 19e siècle. Donc ça, c'est un grand succès. Et donc, des exemples de ces routes littéraires où il y a reconstruction, en quelque sorte, d'un paysage, du paysage du texte littéraire, avec inscription des personnages sous forme de statues, création de maisons-musées de l'écrivain, de son œuvre, et puis donc des paysages emblématiques, et c'est souvent associé à des mises en valeur de produits locaux, notamment gastronomiques. Donc un autre exemple de ces routes littéraires que vous devez connaître. Et ici, par exemple, la route François Mauriac, donc écrivain français du XXe siècle. Donc il y a la maison musée, la maison où il a écrit ses romans et dont il a beaucoup parlé dans ses textes. Un itinéraire donc pour retrouver les paysages de ses romans. Et puis, comme c'est dans la région de Bordeaux, c'est associé à la promotion d'un vin. Le vin étant, vous voyez ici, associé à la signature manuscrite de l'écrivain. Donc, tout va ensemble. Ici, donc, mise en valeur en Allemagne de la région de la Hesse, qui est la région donc, des frères Grimm. Donc, avec mise en valeur alors, identitaire du Land de Hesse, mais aussi d'une hôtellerie de luxe à son château de Fée, et en même temps de produits gastronomiques, donc de saucisses. Et puis, on peut retrouver ces itinéraires sur smartphone. Donc, c'est ce qui se développe actuellement. Ces itinéraires peuvent avoir une valeur politique très, très explicite. Je prends ici l'exemple de la Via Kalevala, qui est en construction actuellement. La construction a démarré fin 2016. Alors, le Kalevala, grande épopée nationale finnoise, c'est le fondement de la culture finnoise moderne. Et ça a été aussi au départ du mouvement politique national de Finlande. Donc, c'est le Kalevala, c'est une épopée qui a été reconstituée par un médecin qui s'appelait Elias Lönnroth et qui a parcouru la Finlande pour recueillir les chants populaires et, avec ces chants populaires, publier le Kalevala, qui a été publié en 1835. C'est à partir de cette publication que la langue finnoise moderne, et donc toute la culture finnoise, a été constituée. Vous avez ici, en haut, là, un extrait d'un tableau de Galen Kalela, dont j'ai parlé tout à l'heure, une scène du Kalevala. Donc il y a actuellement constitution de cette Via Kalevala sur le chemin suivi par le docteur Lönnroth, donc refaire cet itinéraire de 1000 km. Dont l'aboutissement est actuellement Russie, puisque le berceau national est maintenant dans la Fédération de Russie. Et il s'agit donc de le reconstituer en proposant aux touristes une expérience de santé hygiénique, marcher 64 jours à travers la Carélie. C'est comme le chemin de Compostelle, hein, il y a cet engouement actuel des Européens pour la marche et pour souffrir, mais faire une expérience morale, mystique, sociale, par la marche, et donc à travers le Kalevala. Mais donc 2016, c'est commencé juste avant le centenaire de l'indépendance de la Finlande, qui était 2017, et ça doit se terminer donc avec le bicentenaire de la publication du Kalevala. Donc il y a un enjeu. Autre exemple de route à enjeu politique et économique, c'est la construction de la route de Gabriel Garcia Marquez. Depuis qu'il est mort, bon, prix Nobel, hein, c'est pas rien, qu'il est revenu en mort du Mexique et qu'il a été enterré dans son pays natal. Et il y a tout un travail de sortie de la Colombie d'une image très négative, narcotrafic, guerre civile, à travers la mise en valeur du réalisme magique. Et donc, c'est proposé au monde, venez découvrir. Alors, vous voyez les langues qui sont mises en valeur, enfin les langues qui sont utilisées, hein. Venez voir la Colombie, le pays du réalisme magique. Venez retrouver les paysages de Gabriel Garcia Marquez, et ça a une valeur politique très forte pour le pays aussi, politique et économique. Je voudrais aussi signaler alors un nouvel élément récent du rapport entre littérature et territoire, c'est la création du label UNESCO. Donc, ville littéraire, City of Literature, qui a été décerné à Barcelone en 2015. Le label a été créé en 2004 et la première ville qu'il a obtenue, c'est Édimbourg, une ville qui a été un peu l'initiative de la création de ce label, en 2004. Alors, il y a actuellement donc 18, je crois, villes. Ville littéraire par le label UNESCO. Il n'y a aucune ville française. Et la seule ville francophone, c'est Québec. Et les critères pour avoir ce label sont liés notamment à l'existence d'événements littéraires dans l'espace urbain, comme c'est tout à fait souligné. Et le label encourage aussi une littérarisation du paysage urbain qui se produit actuellement. C'est-à-dire qu'initialement, ça a été le paysage rural ou le paysage montagnard qui est devenu paysage identitaire. Maintenant, nous sommes dans le monde des villes et il y a une littérarisation très forte du paysage urbain en cours. Donc, il y a eu à Barcelone création, donc en relation avec ce label de création de routes littéraires. Je m'achemine vers ma fin, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, développé, et je pense que ça n'est pas terminé. Et cette littérarisation du paysage urbain ne se fait pas seulement par ces itinéraires, mais aussi par l'inscription dans les nouvelles constructions des œuvres littéraires. Et là, c'est très fort, notamment dans le cadre de Dublin, qui est donc cité littéraire UNESCO depuis 2010, une ville où le tourisme est en pleine expansion et pas très ancien. Donc tous les ponts portent le nom d'un écrivain. Et le pont Samuel Beckett, vous voyez ce qu'il évoque, c'est une harpe celtique. Il est magnifique, c'est une magnifique harpe celtique au milieu de la ville. Donc on renvoie à des fondements littéraires anciens. Et puis vous avez ici cette fontaine donc, qui renvoie à un personnage de l'œuvre littéraire de Joyce. Un élément, enfin la rivière anthropomorphisée qui devient personnage et qui a été reconstituée. Un autre élément, et là on reste à Dublin, c'est la création donc dans beaucoup de villes actuellement de festivals de littérature qui ont une ampleur de plus en plus importante et qui sont associés parfois à des événements spectaculaires, soit des performances par des artistes, soit des performances par le public lui-même. Et dans le cadre du festival donc Bloomsday à Dublin, donc des lecteurs admirateurs de Ulysse de Joyce s'habillent en tenue 1900 et défilent dans la ville en lisant le texte de Joyce aux différents endroits qu'on retrouve dans le roman. Donc c'est quelque chose qu'on trouve dans d'autres cités, enfin cet engouement pour les performances de lecture. Je terminerai par une remarque sur ce qui se passe de nos jours. Bon, comme nous le savons, nous sommes dans le monde de la globalisation et nous savons aussi que cette globalisation est associée à une intensification des pratiques localisées. Et cette globalisation et ces localisations contribuent aussi à l'émergence de nouvelles formes du rapport entre espace et littérature, qui mettent aussi l'accent sur la notion d'hybridité et de mouvement, de plasticité des représentations. Et je me permettrai ici de terminer par quelques remarques d'une romancière, et c'est dommage qu'elle n'ait pas été couronnée par le prix Nobel. Bon, il manque de femmes, mais ça aurait été une occasion. Margaret Atwood, interrogée sur la question justement de littérature nationale, elle avait répondu ceci. Tout auteur est né quelque part, et le lieu où il grandit, des premières écritures à l'âge d'écrivain, n'est pas sans importance. Les livres ont leurs racines dans le sol, comme des arbres, et ce sol, comme les habitats des oiseaux, est spécifique. Il n'y a pas d'île flottante appelée sans nom, où serait écrite une langue universelle et où on ignorerait les drapeaux nationaux, les hymnes nationaux, les dettes nationales. Mais il y a de nos jours quantité de transplantations et les hybrides abondent. Et si Joyce avait été natif d'Inde, s'il avait écrit un livre intitulé « Portrait d'un artiste indien en jeune homme », se situant en partie à New Delhi et en partie à Dublin, est-ce que ce livre serait classifiable comme littérature irlandaise ? Beaucoup de livres et d'auteurs maintenant glissent dans et hors des vieilles catégories. Et pourquoi pas ? Et je vous remercie de votre attention.